Deutsche Welle, magazine environnement.
L'agriculture paie le plus lourd tribut lors de catastrophes naturelles. C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO. Tout comme l'Organisation Météorologique Mondiale, la FAO était présente à la troisième conférence des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophes qui s'est terminée il y a un peu plus d'une semaine à Sendai, au Japon. Nous reviendrons sur les approches de ces deux organisations en matière de gestion des catastrophes. Également dans ce magazine, vous pourrez entendre la deuxième partie de notre interview avec Monique Barbu, la secrétaire exécutive de l'UNCCD, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. La gestion durable des terres est sa préoccupation. Mesdames et messieurs, bonjour. Kosivitiasu au micro. La troisième conférence des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophes a débouché sur une stratégie internationale orientée vers la prévention et vers une meilleure résilience face aux catastrophes naturelles. L'heure est à l'action, selon le rapport d'évaluation mondiale de la stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies pour l'année 2015. Les pertes annuelles moyennes dues aux catastrophes sont estimées à plus de 310 milliards de dollars. Dominique Burgeon est le coordonnateur de la FAO sur la résilience.
Dans les pays en développement, nous savons très bien que 2,5 milliards de petits producteurs dépendent de l'agriculture pour leurs moyens d'existence. Nous savons également que pour certains pays, l'agriculture joue un rôle prépondérant dans la formation de leurs produits intérieurs bruts. Il est clair que c'est un secteur qui est particulièrement vulnérable et qui est de manière répétitive affecté par les désastres. Nous avons récemment à la FAO conduit une étude au cours de laquelle nous avons revu les études d'impact sur 78 crises au cours des 10 dernières années. Et il nous est apparu que sur l'ensemble des coûts engendrés par ces crises, 22% étaient directement liés au secteur agricole. Nos efforts dans les prochains mois viseront à affiner ces résultats pour mettre en évidence évidemment l'impact sur le secteur. Des mauvaises pratiques agricoles peuvent exacerber l'exposition au risque. Toutefois, ce qui est clair, c'est que l'agriculture a un rôle central dans la réduction des risques et dans le renforcement de la résilience des communautés et des populations. L'agriculture a un rôle fondamental en matière d'adaptation au changement climatique et aussi d'atténuation de l'effet du changement climatique, qui est une cause importante de l'augmentation du nombre, de la fréquence et de l'intensité des catastrophes naturelles auxquelles nous sommes confrontés à l'heure actuelle.
Dominique Burgeon de la FAO. D'après l'organisation onusienne, c'est le secteur agricole qui est le plus touché, avec 22% de tous les dégâts dus aux catastrophes naturelles telles que la sécheresse, les inondations ou encore les tsunamis. L'étude de la FAO porte sur les catastrophes dans 48 pays en développement sur la période 2003-2013. Les communautés rurales et semi-rurales pauvres demeurent les premières victimes.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Il n'y aura pas de développement durable si l'on ne s'attaque pas aux catastrophes naturelles, d'après le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM. L'organisation a présenté à Sendai au Japon, lors de la conférence sur la gestion des catastrophes, son analyse sur les besoins spécifiques et les actions que peuvent mener les groupes les plus vulnérables, tels que les personnes âgées, les femmes et les enfants. Le secrétaire général de l'OMM, Michel Jarraud.
Au niveau de l'Organisation météorologique mondiale, nous accordons une attention toute particulière sur l'analyse des besoins spécifiques, c'est-à-dire pourquoi, par exemple, certains de ces groupes n'ont pas accès aux alertes, peut-être qu'ils n'ont pas les téléphones portables, peut-être qu'ils n'ont pas accès à la radio, peut-être. Donc on analyse les besoins spécifiques de ces groupes, mais aussi il y a un aspect formation et éducation, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils reçoivent l'alerte, quelles sont les actions qu'ils peuvent prendre? Comment se mettre à l'abri? Est-ce qu'il y a des abris? Quelles sont les actions à prendre? Donc l'Organisation météorologique mondiale, de plus en plus, essaie d'analyser les besoins des divers groupes avec une attention toute particulière sur les groupes les plus vulnérables, les personnes âgées, les femmes, les enfants, et de développer des informations, des outils qui soient plus spécifiquement ciblés vers ces catégories. Et une des initiatives lancées lors de cette conférence est de développer un réseau sur des alertes et que ces alertes soient multicatastrophes. Pas simplement des alertes différentes pour les tsunamis, pour les inondations, pour d'autres choses, mais d'avoir de plus en plus une approche qu'on appelle multicatastrophe intégrée. Donc il ne s'agit plus de travailler en silos très séparés, mais il s'agit vraiment que tous les partenaires travaillent la main dans la main dans ce domaine.
C'était Michel Jarreau de l'OMM. La FAO a de son côté lancé un mécanisme spécial destiné à aider les pays en développement à mieux équiper leur secteur de production vivrière pour réduire l'exposition aux risques et limiter les impacts. Les propos de Michel Jarreau et de Dominique Burgeon ont été recueillis par les services de presse des Nations Unies. Intégrer la réhabilitation des terres dégradées à la négociation climatique, c'est ce que souhaite Monique Barbu, la secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, l'UNCCD. Les Nations Unies mettent les sols à l'honneur en cette année 2015, tandis que la décennie 2010-2020 a été consacrée à la lutte contre la désertification. La thématique est encore en discussion cette semaine à Bonn. La nouvelle secrétaire exécutive de la Convention, Monique Barbu, prône la dégradation zéro des terres. Et pour elle, c'est possible.
Chaque année, sur la Terre, nous détruisons 12 millions d'hectares. Nous dégradons 12 millions d'hectares. Donc, il faudrait restaurer chaque année 12 millions d'hectares pour être à une dégradation zéro.
À condition aussi que l'évolution du climat soit maîtrisée.
Tout à fait. Alors, ça veut dire que, du coup, il faudrait, effectivement, ces 12 millions peuvent devenir 15 ou 20 millions un jour. Mais si, par exemple, on fixait partout dans le monde des lois qui disent qui que ce soit dégrade un hectare de terre, restaure un hectare de terre, du coup, je peux vous assurer que le coût serait très faible, parce qu'encore une fois, on parle de 100 euros l'hectare en moyenne. Donc, je veux dire, imaginons un promoteur immobilier qui construit une cité à côté de Dakar, qui utilise 3 hectares de terre pour sa cité. Si on lui dit, ok, tu as dégradé 3 hectares de terre, puisque tu as construit des bâtiments dessus, donc tu restaures 3 hectares de terre, on parle de 300 euros. Donc c'est quand même pas des choses extraordinaires. Mais ça, vous le mettez bout à bout et vous arrivez à restaurer 12 millions d'hectares chaque année. Et c'est ça qu'on veut.
C'est ça que vous voulez. On en a parlé, mais je reviens un peu plus là-dessus. Et quel bilan faites-vous de la stratégie d'accompagnement de l'UNCCD dans la lutte contre la dégradation des terres, dans l'accompagnement des pays, je dirais?
Alors, j'ai un bilan un peu mitigé, si vous voulez. C'est malheureusement, cette convention, comme vous le savez, c'est une convention qui n'a pas été bien considérée par l'ensemble des pays. Beaucoup plus d'attention a été portée à la Convention climat ou à la Convention biodiversité qu'il n'y a eu d'attention sur les problèmes de dégradation des terres. Pourtant, ce sont ces problèmes-là qui sont au cœur des problématiques de développement, et en particulier des plus pauvres. Et donc, je crois honnêtement que le message politique derrière notre convention doit être porté maintenant de façon plus forte. Ce qui veut dire qu'il faut admettre le principe qu'on ne peut pas uniquement travailler par consensus. Parce qu'il y aura toujours des gens qui voudront que le discours soit le plus plat possible, le moins invasif par rapport à leur politique nationale. Mais je crois qu'il est temps maintenant de passer à une nouvelle période de la Convention. Le savoir, on l'a. Savoir comment les terres se dégradent, on sait. Comment on restaure des terres, on sait. Donc maintenant, effectivement, il faut passer à la conscience politique que c'est du devoir de tous de pouvoir travailler à cette restauration des terres.
Vous venez de dire que cette convention est en quelque sorte est un peu oubliée ou bien marginalisée. Et que dites-vous de ceux qui pensent que l'UNCCD, c'est une convention africaine?
Mais justement, ça a été, à mon avis, son erreur de naissance. Parce que c'est vrai que ce sont les Africains qui l'avaient demandé à l'époque. Et je pense qu'ils ont eu tort, à l'époque, de vouloir mettre le mot « Afrique » dans la Convention. Et je pense que c'est cette erreur originelle que nous payons aujourd'hui. Et donc, c'est devenu un peu compliqué d'expliquer que le problème de dégradation des terres et les impacts de la dégradation des terres, ils sont mondiaux. Mais ça commence à venir. Mais c'est vrai que pendant 20 ans, la plupart des gens disaient « bon, c'est une convention régionale, disons-nous ». Et donc tout mon travail, toute mon énergie est mise maintenant à expliquer « attention, ce n'est pas vrai ». Ce problème, il impacte aussi bien l'ensemble des 5 continents et il impacte de façon grave les politiques de développement et les politiques de sécurité internationale.
Et quelle politique pour la promotion des bonnes pratiques en matière de gestion durable des terres? Vous venez de parler tout à l'heure de certaines bonnes pratiques que vous voulez mettre en exergue. Et quelle politique pour une bonne promotion des bonnes pratiques en matière de gestion durable des terres?
Nous avons des bases de données que nous sommes en train de construire et compagnie. Mais tout ça, pour moi, ce sont des instruments utiles, nécessaires. Mais malheureusement, le paysan de Maradi, il ne regarde pas les bases de données. Et donc, il faut que nous trouvions des moyens qui soient des moyens sur lesquels les 500 millions de petits paysans pauvres à travers le monde puissent travailler et connaître ces méthodes-là. Et en fait, le meilleur moyen qui existe, c'est les moyens tels que vous les représentez. Je crois que ce sont les radios et les télévisions qui sont les seuls à même de nous amener auprès des populations les plus déshéritées. Parce que quel que soit le village le plus pauvre aujourd'hui de la planète, il y aura un poste radio, il y aura une télévision. Et donc, c'est ce type d'outils de communication que nous devons démultiplier pour pouvoir toucher ces 500 millions de paysans pauvres.
Monique Barbu, secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Également pour les responsables de la société civile africaine, les questions pressantes en matière de désertification ou de dégradation des terres ne sont pas encore dûment prises en compte tant au niveau mondial, national que local. Merci de nous avoir suivis. Kosivitiasu au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle. I got it.